France Inter. Le 18-20. Fabienne Saintès.
Le steak haché, les pâtes, plus d'un euro le kilo, ça fait plus 15%, la farine plus 10, l'huile c'est pareil, le café aussi, au-delà même de l'énergie. Ce qui est frappant, c'est que ce qui gonfle le prix du fameux panier de la ménagère, c'est ce que l'on achète en gros précisément quand les temps sont durs. Et ce serait évidemment complètement contre-intuitif de se dire, ah ben, on arrête les pâtes à cause du prix des céréales. Le fait est que l'inflation est en hausse de manière spectaculaire, on le sait, c'est pas fini. Vous le savez bien, vous, dès que vous faites vos courses, quand les dépenses incompressibles, dont l'essence, dont le gaz, augmentent en flèche, ce que l'on rogne, c'est l'alimentation, c'est là que se font les arbitrages. On va vers des produits de grande consommation qui augmentent aussi particulièrement, et c'est un peu un cercle vicieux. C'est évident que ça mine le moral des familles, le moral en économie, c'est important. C'est aussi ce qui enclenche des réflexes de stockage, évidemment. La solution, bah vous me direz, c'est très simple, on augmente les salaires, on les indexe sur l'inflation, sauf que les entreprises sont alors tenter de faire monter leurs prix pour conserver leurs marges. Alors est-ce qu'on y touche? Est-ce qu'on augmente les salaires mais moins fort que l'inflation? Les choix pour l'instant ont été des chèques énergie, un bouclier énergétique. On sait qu'un chèque alimentaire est en préparation et en discussion. La réponse souvent des économistes est de dire oui, mais il faut mieux cibler les bénéficiaires pour leur donner plus. Alors faut-il bloquer les prix? C'était la proposition d'un candidat d'ailleurs, c'est aussi celle d'une grande enseigne aujourd'hui. La TVA à 0%, c'était une autre idée, qu'est-ce qu'on en fait? Augmenter le SMIC, pourquoi pas? On en discute ensemble ce soir, c'est le téléphone sonne, soyez les bienvenus.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Henri, vous êtes le premier, je vous salue, bonsoir.
Oui, bonsoir. Écoutez, c'est gentil de me donner la parole, d'autant plus que des personnes comme moi n'ont absolument jamais la parole. Donc je m'explique, hein, je suis papa célibataire vivant avec deux enfants de 16 ans. Je suis au-dessus des minimums sociaux, donc moi, avec tout ce qui est proposé, je n'aurai le droit à rien. Donc ça veut dire que des gens comme moi, je vais dire un petit peu ce que je gagne, hein, je gagne environ 2600 euros par mois, et bien des gens comme moi, on considère qu'ils sont riches et qu'ils n'ont pas de soucis et qu'ils n'ont pas de problèmes. Donc je trouve ça lamentable, et moi je suis pas contre effectivement qu'on aide les gens qui ont des soucis, bien sûr, mais en fait il faudrait un petit peu qu'en France on pense à tout le monde et qu'il existe aussi des gens comme nous qui avons aussi nos difficultés, hein. Moi je vois que tout augmente et ça devient très très difficile.
Merci beaucoup pour cette entrée en matière, Henri. Merci pour votre intervention, pour discuter ensemble jusqu'à 20h autour de ces sujets-là. Pascal Hébel est avec nous, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes économiste spécialiste de la consommation. Mathieu Plane est là également, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes économiste à l'OFCE. Je vais commencer avec vous, Pascal Hébel, qui observez les consommateurs, le public, nous, vous, moi. Est-ce que vous diriez que Henri est dans votre panel, dans ce que vous observez et dans le genre de remarques que vous entendez aussi en ce moment?
Oui, tout à fait. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a la moitié des Français qui ont du mal à boucler leur budget logement et le budget alimentation. Donc, il fait partie de cette moitié des Français. On l'oublie un petit peu, c'est-à-dire que c'est le reste à vivre qui se réduit et qui va se réduire dans les mois qui viennent. Et donc, ça fait une partie de plus en plus importante de Français qui vont avoir des difficultés à boucler leur budget. Et quand on est nombreux dans un foyer, quand on a des enfants, l'augmentation des prix de l'alimentation pénalise encore plus.
Ce que dit aussi notre ami Henri, Mathieu Plane, c'est que il est trop riche, et j'y mets évidemment des guillemets. On va parler de ces répartitions-là. Est-ce qu'on préfère donner à beaucoup de monde, mais une somme qui est finalement une petite somme, enfin pas une grosse somme en tout cas. Est-ce qu'on préfère au contraire donner une plus grosse somme à plus de gens? Est-ce qu'on cible bien? Est-ce qu'il faut changer même les ciblages en fait?
Alors là, je pense qu'on parle de la crise actuelle, hein, et les mécanismes pour protéger on va dire les ménages, hein, du choc sur le pouvoir d'achat. Pour le moment, ce qui a été choisi, c'est justement pas de ciblage, notamment, hein, le bouclier tarifaire, il s'applique à tout le monde. Ce qui fait que même s'ils ont augmenté, hein, notamment les prix du gaz, ils ont beaucoup moins augmenté que ce qu'ils auraient dû avoir, et idem pour le prix d'électricité. Pareil sur l'essence, hein, c'est 15 centimes pour tout le monde, que vous soyez riche ou pauvre.
Sauf qu'il y a eu le chèque énergie à 100 euros.
Par contre, il y a le chèque énergie. Mais le chèque énergie, ça représente... Alors, il y a l'indemnité inflation, effectivement, c'est 100 euros pour près de 38 millions de personnes, et il y a le chèque énergie. Mais on va dire que sur les 30 milliards que va dépenser à peu près l'État sur 2022, en réalité, il y en a pratiquement, on va dire, 25 25 milliards qui ne sont pas directement ciblés et qui vont parce que le ciblage est compliqué. En réalité, le ciblage, effectivement, à long terme, c'est ce qu'il faut faire. Mais par contre, quand vous voulez mettre des mesures en place très rapidement, c'est très difficile de cibler, de d'avoir des mécanismes qui fonctionnent bien.
Ça veut dire, disons les choses clairement, ça veut dire que ce serait une usine à gaz, en fait, s'il fallait oui. comptabiliser. Alors voilà, on a là un salaire qui est 2600 euros, mais c'est un père célibataire, etc. C'est il y a deux enfants, parfois il y en a trois. C'est ça que ça veut dire, en
fait. Ça veut dire qu'il faut savoir sur quels critères on cible. Est-ce que c'est d'abord des critères de revenus? Est-ce que c'est des critères de lieu géographique de vie? Est-ce que c'est votre dépendance énergétique, est-ce que vous avez un véhicule ou pas, votre logement individuel, collectif. Donc vous devez croiser beaucoup de critères en réalité, et donc ça crée des seuils bien sûr, et puis à savoir comment ces personnes-là vont recevoir en fait l'aide. Même ça, c'est pas simple. Mmh. Et donc effectivement, les délais de transmission peuvent être longs. Effectivement, plus vous ciblez, j'allais dire, moins vous arrosez large, hein, et donc moins il y aura de gagnants. Mais après, pour l'État, le problème, c'est le coût budgétaire, in fine. C'est-à-dire que si vous voulez aider tout le monde fortement, il y a d'abord la question de l'efficacité, mais il y a aussi la question du coût budgétaire.
Et ce qu'on a dit quand même là, dans cette crise spécifiquement, c'est que pour l'instant, et les choix qui ont été faits, donc de ne pas cibler ou cibler très peu sur certaines choses, ont finalement servi aux plus riches, en fait. Est-ce que c'est une réalité, ça ?
Alors, c'est un peu compliqué, c'est-à-dire que ça aide quand même aussi. Alors sur la question de l'énergie, on voit que les situations sont très différentes. Hein. Aujourd'hui, vous avez des cadres qui vivent dans des zones urbaines où ils vont pas avoir de voiture, des transports en commun, typiquement un Parisien qui serait en centre-ville, versus plutôt classe moyenne, voire on va dire catégorie sociale plus modeste, qui peuvent être en périurbain ou zone rurale, qui va avoir un véhicule, qui va devoir le prendre pour aller travailler. Et donc là, pour le coup, c'est le choc énergétique va être beaucoup plus fort sur cette catégorie-là. En revanche, ce qui est vrai, c'est que des personnes qui peuvent avoir des gros véhicules et qui ont fait le choix de prendre plutôt leur voiture que des transports en commun vont aussi profiter de baisses de fiscalité. Donc ça, c'est le problème. C'est aussi à qui ça va bénéficier. Mais attention, il y a quand même un point important sur la question de pouvoir d'achat. C'est aussi quelle va être la réaction, parce que je pense à l'auditeur qui a posé cette question, la réaction des entreprises face à ça. Est-ce qu'il y aura des augmentations de salaires? Parce que le problème pour le moment, c'est que les salaires ne suivent pas cette inflation. Mmh. Et c'est pour ça qu'il y a une baisse de pouvoir d'achat. Donc c'est vrai que, j'allais dire, les gens comptent beaucoup sur des aides de l'État. Mais c'est vrai qu'il y a un rôle aussi du côté des entreprises. C'est-à-dire que l'État ne peut pas couvrir effectivement l'intégralité du choc. Et donc c'est aussi comment les entreprises vont prendre à leur charge cette inflation à travers les hausses de salaires.
Alors, on a évoqué beaucoup de choses. Donc est-ce qu'on passe effectivement par des aides ponctuelles? Est-ce qu'on passe par des chèques? Est-ce qu'on passe par les salaires? C'est précisément la question d'Alain. Bonsoir Alain.
Oui, bonsoir.
On vous écoute Alain.
Oui, merci d'avoir bonsoir à vous toutes et tous. La question que je pose, c'est aujourd'hui, un smicard, il vit avec 40 euros par jour. Que ça soit, c'est la crise, mais même avant, c'était 40 euros par jour. Il faut donc, me semble-t-il, augmenter les salaires. Mais quand on parle de ça, on dit oui, mais nous sommes en concurrence avec les autres pays européens ou autres. Quand on dit ça, on dit quoi ? On sous-entend quoi ? On sous-entend que nous sommes les esclaves des temps modernes, les esclaves d'un système économique de consommation. Et je crois que cela, que cette question, il faut non seulement se la poser, mais y répondre. Sinon, on continuera toujours à avoir des gens qui travaillent et qui simplement n'auront même pas le droit de vivre. Mmh. Et c'est simplement, je vais rajouter une chose que je n'avais pas, excusez-moi, que je n'avais pas. C'est pareil quand on nous dit, vous vivez plus vieux, alors il faut travailler plus longtemps. Mmh. Mais quand on fait un enfant pour qu'il travaille toute sa vie ou pour qu'il ait le temps de vivre. Mmh.
Ce qui est un autre sujet, Alain, un bon sujet sur lequel on reviendra forcément, mais évidemment, un autre sujet. Je vais revenir vers vous, Pascal Hébel, dans un instant, mais Mathieu Plane, là-dessus, effectivement, ça semble être l'enfance de l'art. Ben oui, évidemment qu'il faut passer par l'augmentation des salaires, en particulier d'ailleurs, Alain parlait des smicards, une augmentation du SMIC plus importante que celle qui a déjà été faite. On se dit, c'est comme ça que ça va fonctionner. Il suffit de l'augmenter de manière en même temps que l'inflation. Pourquoi est-ce que c'est moins mathématique que ça ?
Alors, bon, je comprends tout à fait. Alors, il y a premièrement, effectivement, cette question du SMIC et des autres salaires. Ouais. Elle est importante, elle est très importante. En fait, il faut savoir que le SMIC est indexé sur l'inflation. Donc, le SMIC est revalorisé automatiquement, c'est-à-dire qu'il y a une garantie du pouvoir d'achat des personnes au SMIC. Par contre, j'allais dire, la question est même presque plus inquiétante pour ceux qui sont juste au-dessus du SMIC. Mmh. Parce que eux, il n'y a pas de mécanisme automatique. Donc, ça veut dire, par exemple, quelqu'un qui a été embauché à 10 ou 20% au-dessus du SMIC peut être rattrapé petit à petit par des personnes au SMIC parce que automatiquement son salaire va pas être valorisé.
Que ça veut dire que dès qu'on augmente de manière conséquente le SMIC, il faut de toute façon augmenter aussi tous les salaires qui sont juste dessus et après on n'en finit pas.
Voilà, non mais sauf qu'il y a pas d'effet de diffusion mécanique et donc la question elle va vraiment se poser pour les personnes qui sont juste au-dessus du SMIC, j'allais dire. Hein. Et le risque aujourd'hui c'est qu'il y en ait un tassement des salaires vers le bas. Et ça c'est un vrai problème. C'est-à-dire que vous allez avoir de plus en plus de personnes qui se retrouvent à des niveaux proches du SMIC. Ça c'est le premier problème et le deuxième problème, il a été dit, c'est que en réalité, on est face à un problème de dépenses contraintes. Et on le voit bien, l'énergie fait partie, c'est difficile, mais c'est une partie de la dépense contrainte. Quand vous allez vous transporter, quand vous allez vous chauffer, c'est vrai sur l'alimentaire. Et donc, ça va venir diminuer tout de suite le reste à vivre. Et donc, c'est vrai que pour les catégories sociales, on va dire, dans les entrées, les bas salaires, par exemple, le choc peut être extrêmement douloureux et violent, et ça pose des vraies difficultés financières. Donc, la question, c'est effectivement, les entreprises, est-ce qu'elles vont accepter d'augmenter les salaires au-delà du SMIC, qui sont au-dessus, mais ça veut dire, est-ce qu'elles vont le répercuter du coup dans leur prix? Alors, c'est-à-dire, voilà. C'est un coût supplémentaire pour elles, ou est-ce qu'elles vont rogner sur leur marge? Donc ça, c'est une vraie question.
Et c'est le diable qui se mord la queue. Si elles augmentent leur prix pour conserver leur marge derrière, c'est le diable qui se mord la queue, parce que si elles ne le font pas, par ailleurs, elles seront en difficulté, donc elles seront d'embaucher.
Des risques de faillite.
Exactement. Donc on est dans
cette spirale possible.
Dans cette spirale. On va voir dans un instant, peut-être que vous pourrez nous aider là-dessus, les choix qu'ont fait nos voisins qui sont dans des chiffres inflationnistes qui sont plus hauts que les nôtres.
Oui, bien sûr.
Et pour des raisons que vous allez nous expliquer d'ailleurs, ce reste à vivre. Pascal Hébel, c'est vraiment la clé de cette crise-là, en fait. C'est effectivement, une fois qu'on est dans les charges incompressibles, il y a ce qu'on appelle le reste à vivre. C'est ça qui descend de manière drastique. Et qu'est-ce que ça veut dire, ça, dans la vie d'un consommateur? Je le disais tout à l'heure, c'est l'alimentation sur laquelle on rogne, quoi qu'il arrive, dans ces cas-là, Pascal Hébel?
Oui, tout à fait, parce que ces dépenses contraintes, elles pèsent beaucoup plus chez les plus modestes. Hein. Il y a 17 points d'écart sur ce poids du logement, qui est 17% de plus chez les 20% les plus pauvres. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que l'inflation qu'on vit aujourd'hui, elle touche 3 fois plus ceux qui sont les plus modestes par rapport aux plus aisés. Donc en fait, l'alimentation, c'est la même chose, ça pèse un tout petit peu plus chez les plus modestes, et donc c'est vraiment cette variable-là qui sert d'ajustement, en fait, parce que c'est finalement quelque chose sur lequel on peut jouer, c'est-à-dire qu'on enlève des repas, souvent c'est le petit déjeuner, on enlève des occasions de consommation qui sont considérées comme superflues, donc on arrête de consommer des produits qui sont mal jugés nutritionnellement, et on arrive comme ça, finalement, à arriver à payer ce qui concerne l'énergie, et c'est vraiment ce poids de l'énergie dans le logement qui est vraiment très, qui pèse beaucoup. Et donc, il y a des écarts, il y a des inégalités qui se creusent en ce moment, notamment entre les gens qui vivent dans des zones rurales. En moyenne, dans une zone rurale, l'inflation a été mesurée de 45 euros de plus, alors que c'est que 25 euros en région parisienne. Donc, c'est ça la difficulté actuelle, c'est que ça touche pas tous les postes de consommation. Et donc, c'est cette inégalité-là qu'il faut arriver à résoudre actuellement, mais c'est vrai que c'est à faire ponctuellement. Donc c'est pour ça qu'il faut pouvoir augmenter le SMIC, et c'est plus à ce niveau-là qu'il y a des difficultés. Donc ça veut dire qu'en effet, ces populations qui sont les plus modestes ne partent jamais en vacances de toute façon, et n'arrivent pas à payer des choses pour se faire plaisir.
Je le disais en introduction, Pascal Hébel, il y a quelque chose d'extrêmement contre-intuitif à cause des céréales. Les pâtes ont augmenté, pourtant c'est typiquement le genre de denrées qu'on achète, et qu'on achète beaucoup, et même qu'on stocke précisément pour les jours où c'est plus compliqué. Il y a quelque chose qui oblige à penser même différemment dans cette crise-là, peut-être, que dans les précédentes, non ?
Oui, c'est vraiment ce qu'on remarque, c'est qu'on change de régime alimentaire quand on a des contraintes, et en fait, on mange plus de produits céréaliers, parce que ça peut être du riz, ça peut être de la semoule, parce que finalement, c'est ce qui fait plus de satiété, c'est ce qui coûte le moins cher en portions. Et pourtant, c'est sur ce produit-là qu'il y a les plus fortes hausses de prix. Ça va être le cas des œufs, c'est la même chose. C'est la protéine animale qui coûte le moins cher. Et donc, même si c'est sur ces produits qu'il y a les plus fortes hausses, automatiquement, on va manger plus ces produits-là. C'est le cas des étudiants, notamment, qui mangent beaucoup ce type de produits. Et on a des hausses de consommation de pâtes. Et on est devenus les premiers consommateurs en France à la suite de la crise de 2008, où on avait un scénario de hausse aussi des prix de l'alimentation.
L'inflation, Mathieu Plane, est à 4,8%. On sait bien, d'après les projections, qu'on sera quoi, à 5,5% au moment de l'été, quelque chose dans ce goût-là. Et on sait surtout que ce n'est pas fini, en fait.
Oui, non,
le maximum, on ne le connaît pas.
Non, alors on est dans un scénario. Alors il y a plusieurs incertitudes. Hein. La première, elle est l'évolution des prix de l'énergie, en réalité. Hein. pour le moment, il y a un bouclier tarifaire, mais c'est vrai que ça dépend beaucoup des relations avec la Russie.
Là, pour le coup, c'est embargo ou pas embargo, ça changera tout à l'inflation.
On voit, normalement, il doit y avoir un embargo d'ici la fin de l'année sur le pétrole, mais on n'est pas sur l'embargo encore sur le gaz. Donc voilà, la question des prix de l'énergie, elle est très forte et assez immédiate. Et puis après, il y a tous les effets de diffusion, notamment de ces prix de l'énergie, au reste de l'économie. Ça augmente le coût de production des entreprises, ça augmente le coût du transport. Ça peut aussi avoir des effets, comme on l'a dit, de second tour sur les salaires pour éviter les hausses de pouvoir d'achat. Et donc ça veut dire que c'est l'ensemble des secteurs qui peuvent être touchés par l'inflation, même si vous n'avez pas de relation directe avec l'énergie immédiatement. Par exemple, effectivement, si vous voulez contrer l'effet sur le pouvoir d'achat pour vos salariés, vous avez un salon de coiffure, vous allez augmenter le salaire par exemple de 5% pour maintenir le pouvoir d'achat. Mais le salon de coiffure, s'il veut maintenir son chiffre d'affaires à peu près, on va dire, d'un point de vue équivalent avec cet effet d'inflation, il devrait augmenter ses prix de 5% dans ce cas-là. Et donc vous pouvez avoir un mécanisme comme ça qui se diffuse à l'ensemble de l'économie. Donc c'est vrai que la vraie question, et qui est très compliquée, c'est que en réalité c'est un choc qui va que l'économie française et l'économie européenne va encaisser, parce que ce coût de l'énergie est beaucoup plus cher et qu'on ne produit pas cette énergie. C'est des hydrocarbures, donc on paye juste plus cher. Donc c'est savoir qui va payer plus cher, une partie les ménages, une partie les entreprises, une partie l'État, et donc comment on répartit ce choc inflationniste. Et c'est là, et ce qui a été dit juste avant est tout à fait juste, c'est que c'est très inégalitaire en réalité. Mmh. Au-delà du choc même macroéconomique avec la perte de pouvoir d'achat, c'est que les situations individuelles peuvent être très différentes face à ce choc. Pour certains, c'est des difficultés fin de mois très difficiles. Pour d'autres, ça va être rogné sur certains loisirs. Mmh. Et pour d'autres, ça va pas passer à part beaucoup d'effets parce que finalement, ils sont moins dépendants de cette énergie ou ont des niveaux de vie assez élevés.
Comment se fait-il que nos voisins allemands, par exemple, ont une inflation à 8%, je crois, c'est encore plus important? Est-ce que c'est simplement parce qu'ils ont une dépendance, notamment une dépendance gaz et pétrole qui est plus importante que la nôtre? Est-ce que c'est dû aussi simplement qu'ils ont un taux de chômage qui est plus faible que le nôtre, donc il y a une répartition de salaire qui n'est pas la même? C'est quoi la raison en
Alors, je dirais qu'il y a trois raisons principales. La première, en France, on a mis en place un bouclier tarifaire, ce que les autres n'ont pas fait, ce qui bloque les prix notamment du gaz et de l'électricité. Il faut savoir que ce bouclier représente pratiquement 2 points d'inflation. Si on prend aussi les prix sur l'essence, on est pratiquement à 2 points d'inflation en moins. Donc on voit que ça fait quand même presque déjà l'écart avec la moyenne. Et puis, effectivement, on a un mix énergétique qui est plus favorable chez nous, parce qu'on a le nucléaire, ce que n'ont pas les Allemands. Voilà. Et troisième point, ils ont un marché du travail qui est aussi plus en tension en réalité. Il y a un taux de chômage qui est très bas. Et donc les salaires peuvent potentiellement augmenter plus vite ou réagir plus vite à cette hausse de l'inflation.
Retour au standard, retrouver Daniel. Bonsoir Daniel.
Bonsoir.
On vous écoute Daniel.
Oui, moi je me posais la question, ça me semble pas complètement étonnant que les prix de l'alimentation et de l'énergie continuent malgré la guerre et malgré le choc qu'on vit actuellement, continuent d'augmenter. Et je sais pas trop à coup de chèque ceci et d'aide cela, micro ciblé, ça a l'air d'être super compliqué. Et je me posais juste la question, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas des actions qui se font sur d'autres domaines? Je pensais au logement. Qui est une part vraiment énorme dans le coût en fait des foyers, quoi. Moi j'habite en banlieue parisienne et les loyers, que ce soit à la location ou à l'achat d'immobilier, sont complètement disproportionnés et il faut plus de toute une vie pour s'acheter quoi que ce soit. Voilà, donc est-ce que ce serait pas plus simple d'agir aussi sur d'autres mécanismes que directement sur cela?
Merci beaucoup pour votre remarque, Daniel. Une réponse à ça, Pascal Hébel?
Oui, elle a complètement raison, cette interlocutrice, parce qu'on est le pays d'Europe où le poids du logement est le plus important. Et c'est lié au fait qu'on manque de logements sociaux, en fait. On a un vrai problème par rapport au logement, parce qu'on est plus propriétaire, les Allemands le sont moins, donc c'est plus les institutions qui possèdent les parcs immobiliers, donc c'est une régulation qui est très différente. Et c'est vraiment un sujet auquel on ne s'est pas du tout attaché, on n'a pas du tout trouvé de solution, et au cours du temps, les inégalités se sont accrues. C'est-à-dire qu'il y a 40 ans, le poids du logement était le même, quelle que soit la classe sociale. Aujourd'hui, il y a presque 20 points d'écart. C'est-à-dire que c'est ça qui creuse les inégalités et qui explique en fait qu'on ait en France ce sentiment d'inégalité, alors que quand on regarde les différences de pouvoir d'achat, il n'y en a pas tant que ça. Donc c'est vraiment ce point-là qui est clé dans l'explication du malaise des catégories les plus modestes.
Mathieu Planin.
Oui, non, il y a un point très intéressant là-dessus, sur les effets pour on va dire amortir le choc. Et c'est vrai que la question du logement est essentielle, parce que c'est un point important, bien sûr, de notre dépense, et qu'elle est en partie contrainte, bien sûr. Mais il y a un mécanisme qu'il faut avoir en tête, c'est ce qu'on appelle l'indice de référence des loyers. Aujourd'hui, quand vous êtes locataire, il va être revalorisé en fonction de cette inflation. Donc la grande question, est-ce que cet indice de loyer va être revalorisé à la hauteur de l'inflation? Donc potentiellement, ça pourrait être 4 ou 5% de hausse de ces loyers. Donc si vous voulez faire quelque chose, par exemple pour les locataires, c'est ne pas le revaloriser intégralement. Parce que sinon, effectivement, ça va augmenter le poids. Par contre, c'est les propriétaires qui auront moins de revenus. Donc c'est un arbitrage entre les propriétaires et finalement les locataires. Mais ça représente des sommes importantes. Hein. C'est plus de cette revalorisation, elle pourrait être de l'ordre de plus de 200 euros par an par ménage. Donc c'est un transfert, de toute façon, qu'il va falloir se répartir entre le propriétaire et le locataire. Mais c'est un point qui me semble assez essentiel.
Sachant que effectivement, il y a une grosse inégalité là pour le coup, que l'on est selon que l'on est locataire ou qu'on est propriétaire. Et encore que d'ailleurs,
les niveaux de vie sont pas les mêmes.
Les niveaux de vie sont pas les mêmes, mais encore que d'ailleurs, parce que on aurait tort de penser que les propriétaires sont forcément les plus riches. Alors bien sûr que ça joue, mais pas autant que ça, non, si ou pas.
Non, alors globalement, si. En général, quand on regarde le niveau de vie moyen des locataires,
à la maison individuelle, etc.
Voilà. Alors mais oui, mais lui va pas être dépendant de. En fait. C'est le propriétaire qui loue son logement, qui va encaisser effectivement. Donc, il a déjà potentiellement son logement et éventuellement va louer effectivement un autre type de logement. Mais on voit bien que de toute façon, le choc est négatif. C'est qui va encaisser le choc. Si on veut minimiser les effets sur les niveaux de vie, il vaut mieux faire en sorte que cet indice de loyer n'augmente pas autant que l'inflation. Mais ça veut dire que les bailleurs ou les propriétaires acceptent finalement un rendement de leur épargne qui va être beaucoup plus bas que ce qui était prévu. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez même des rendements négatifs. C'est-à-dire que les gains que vous attendez de cette épargne sont plus faibles que l'inflation.
Il y a une loi pouvoir d'achat qui se prépare apparemment, et notamment donc un chèque alimentation. On ne sait pas très bien effectivement quelle forme il aura. Est-ce que ce sera un chèque comme le chèque énergie? Est-ce que ce sera comment vous l'imagineriez, vous, Mathieu Plane? Qu'est-ce qui serait selon vous le plus juste en fait? Est-ce qu'il faut créer effectivement ce qu'on appelait ça une usine à gaz au début de cette émission pour que ce soit vraiment équitable pour chacun? Est-ce qu'il faudrait quelque chose de plus global, ou est-ce qu'il ne faut pas passer par le chèque en fait?
Vous avez deux choses, c'est soit vous répondez par des augmentations de minima sociaux, des choses comme ça, soit vous avez des chèques comme on a fait sur l'énergie, sur l'alimentation. Mais la question, c'est effectivement, ça devient donc un critère essentiellement de revenus a priori, de niveau de vie. Et puis après, ce qui est important, c'est de prendre en compte la structure familiale des foyers. C'est-à-dire que c'est pas pareil quand vous êtes célibataire ou quand vous êtes en couple avec des enfants, etc. Donc c'est tout ça qui va être important. Et puis, c'est effectivement, par exemple, le niveau de vie ou le gain de pouvoir d'achat va pas être le même forcément quand vous êtes en Île-de-France ou dans des régions plus rurales, en tout cas, parce que le prix du logement n'est pas le même. Donc c'est vrai que prendre en compte tous ces paramètres, c'est très difficile. Et donc c'est vrai, vous pouvez faire un chèque alimentaire. La question qui va se poser, c'est que si vous êtes sur une hausse des prix durables, c'est est-ce que vous faites de façon récurrente des chèques? C'est-à-dire que les chèques sont censés pour être là une fois normalement.
Et pendant combien de temps?
Transitoirement.
Mais même question sur le bouclier d'ailleurs.
On est exactement dans le même problème. C'est comment on sort de tout ça? Parce que en réalité, si on considère qu'on est dans une zone d'inflation assez durable avec des prix de l'énergie élevés, la question c'est qu'aujourd'hui les réponses qui ont été imaginées sont des réponses en réalité assez transitoires et d'urgence face à une situation d'urgence. Mais si cette urgence devient du permanent, il faut réfléchir à des mécanismes plus permanents, plus ciblés. Et derrière, en fond, il se pose toujours la question du coût pour les finances publiques et comment financer tout ça.
Sachant que même si demain, ce qui ne se produira pas, la guerre en Ukraine était terminée, ça ne veut pas dire que c'est la fin des sanctions, donc ça ne veut pas dire que c'est la fin du problème du gaz, du pétrole et même des céréales ukrainiennes qui ne seront pas refaites. Donc c'est pas ça la fin de la crise.
Bien sûr, donc tout ne va pas s'arrêter et vous avez tous ces effets qui peuvent entrer diffus. Je dirais juste sur les céréales, c'est un peu différent dans le cas de la France où on produit beaucoup de céréales.
C'est vrai, ce qui n'est pas le cas d'une partie du reste de l'Europe. Il y a une autre solution, enfin une autre solution en tout cas, qui a été avancée, qui est faite par certains, c'est de bloquer les prix. Et c'est l'une des questions de Pierre qui est avec nous. Bonsoir Pierre.
Bonsoir.
On vous écoute Pierre.
Oui, donc moi je voulais réagir, ça me fait bondir quand on parle de bloquer les prix. Donc moi je suis agriculteur, bloquer les prix, je sais pertinemment que ça va se faire, c'est les GMS qui vont le faire, et ça va se faire au détriment de l'agriculteur. Ça c'est clair, c'est net, on le voit. Donc moi je suis pas trop d'accord. Donc moi je fais, on me demande, on va me demander de faire de l'écologie, ça a un coût. On va me demander de produire à des coûts raisonnables. Moi je veux bien, mais le gasoil qu'on met dans les tracteurs, on est passé de 600 euros à pratiquement les 1000. À pratiquement 1200, 1300, voire 1400 euros les 1000. comment on fait quoi. Mmh. Le matériel agricole, il a monté de 10, voire 20, voire 30%. Pour nous, comment on fait quoi. Et je ne parle même pas des engrais ni des pesticides.
Merci, merci beaucoup, Pierre-Mathieu Plane. Bloquer les prix, certains le disent, certains le font. Il y a une enseigne qui a commencé d'ailleurs à le faire, une très grosse enseigne. Et Pierre nous dit, de toute façon, c'est toujours moi qui vais trinquer derrière, en fait.
Il n'a pas totalement tort. C'est-à-dire que, en réalité, on voit que dans une économie de marché, les prix sont libres, ils ne sont pas administrés. Donc si vous les bloquez, il faut savoir comment vous les bloquez et qui paye. Est-ce que vous compensez le producteur? Est-ce que vous compensez le distributeur? Par quel mécanisme vous le faites? Sur quel type de produit? On voit bien quand le coût de la matière première augmente, effectivement, in fine, ça se retrouve dans le prix à la consommation. Donc il y a un effet de diffusion. Alors les distributeurs peuvent jouer un peu sur leur marge, les producteurs peuvent faire peut-être quelques efforts, mais ça permet pas de bloquer les prix. Hein. Donc on peut éventuellement sur l'électricité et le gaz, parce que en gros les fournisseurs, c'est l'État est actionnaire dans ces grosses entreprises, mais effectivement sur beaucoup de produits de consommation alimentaire, c'est très compliqué. Ça peut passer par des mécanismes fiscaux, mais c'est pas des blocages de prix. Donc à mon avis, c'est assez compliqué de penser qu'on pourra bloquer les prix, surtout si le coût de la matière première agricole continue à rester élevé.
Et combien de temps ça peut durer d'ailleurs, là je pense à cette grande enseigne par exemple, un blocage de prix. Là aussi, on est dans une mesure d'annonce faut évidemment à un moment lever, non?
Oui, mais je pense qu'il y a, ça part peut-être d'un bon sentiment, il y a aussi de la communication, hein, certainement.
Derrière,
il faut regarder sur quel type de produit. Est-ce que c'est des produits qui sont extrêmement impactés par le...
On parle des produits de première nécessité.
Première nécessité, mais c'est quoi? Et donc effectivement, les distributeurs peuvent faire un effort, mais on voit que sur la gamme alimentaire, sur l'ensemble, c'est extrêmement compliqué et que il n'y a pas de mécanisme qui permette de répondre comme ça de façon immédiate à un blocage des prix à partir du moment où l'État n'est pas directement producteur.
Pascal Hébel, deux questions sur franceinter.fr qui sont vraiment deux modes de consommation très différents et qui vont vous intéresser. Il y a Arnaud d'abord qui nous dit ceci, il y a un moyen très rapide pour augmenter le reste à vivre. Je sens que de l'autre côté, certains vont s'agacer un petit peu. Supprimer ces dépenses de multiples abonnements mensuels, les Netflix, les Canal+, etc. Réduire, voire supprimer les options des mutuelles qui coûtent de plus en plus cher pour des remboursements de plus en plus faibles. Et puis on a Isabelle qui nous dit ceci, les gens comme moi qui prennent les transports en commun, qui sont végétariens, qui privilégient la seconde main, subissent moins les augmentations, donc soyez plus vert, plus écolo, moins dépensé ne rend pas la vie misérable. Alors je disais, Pascal Hébel, que ces remarques allaient peut-être faire bondir certains de l'autre côté du poste, mais oui, est-ce que dans ces périodes-là, et sachant que cette période-là de toute façon va se prolonger, est-ce qu'on s'achemine de façon moins contrainte vers un changement de nos habitudes, tout simplement?
Oui, de toute façon, on le sait, quand il y a des contraintes de ce type, on va vers de la sobriété, on va même moins manger. On a eu l'obésité qui a baissé en 2008 quand le pouvoir d'achat a beaucoup baissé. Donc forcément, il y a des contraintes qui vont faire changer la façon de manger. Mais ce qui est important sur le chèque alimentaire, c'est que l'alimentation, ça permet aussi de limiter les dépenses de sécurité sociale, puisque si on mange mieux, on est moins malade. Donc en fait, c'est vrai qu'il faut y réfléchir sur du long terme. C'est pas essentiellement parce qu'il y a une inflation forte aujourd'hui. Il faut pouvoir aider ceux qui ont des difficultés à rééquilibrer leur alimentation. Ce qui est dommage, c'est que finalement, les prix du blé, ce soit mondial et qu'il y ait de la spéculation aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on sait bien que le choc, il va avoir lieu qu'au mois d'octobre, parce que les récoltes de blé, elles ont lieu que cet été. Donc en fait, c'est bien parce qu'on anticipe qu'il va y avoir des baisses de production en Ukraine, qu'il y a une hausse du prix. Donc c'est là-dessus qu'il faut pouvoir réfléchir. Et le sujet alimentaire, il est pas anodin, parce qu'il y a aussi des impacts sur la santé. Ensuite, à la question des forfaits, en effet, ça revient toujours, c'est qu'il faut quand même comprendre qu'il y a des gens qui ont des abonnements téléphoniques et que ça leur permet de trouver du travail, en fait. C'est quand même de la nécessité aussi, donc c'est pas du loisir.
C'est dans les dépenses incompressibles, ce genre. Alors, l'abonnement télé, c'est une chose, mais l'abonnement au téléphone, le reste, évidemment, est dans les dépenses incompressibles. Est-ce qu'on dit, Mathieu Plane, que ce qu'on vit en ce moment, ça s'appelle une économie de guerre, en fait? Est-ce que ça s'appelle comme ça ou pas?
Alors, moi, je l'appellerais pas comme ça, quand même, parce que d'abord, nous, on n'est pas en guerre. Et on subit les conséquences d'une guerre. Mais l'économie continue à fonctionner à peu près normalement. Par contre, les conséquences, aujourd'hui, elles sont dans la transmission des prix de l'énergie. On voit sur les prix de certaines matières premières, certains composants industriels. Voilà. Et donc, il y a des effets de diffusion de la guerre en Ukraine, du conflit avec notamment la Russie, qui ont des effets sur l'Europe et notamment la France. Mais parce qu'il y a une dépendance aux hydrocarbures russes qui est importante. Mmh. Maintenant, on voit que justement la question, elle est effectivement sur plutôt sur cette inflation et ce pouvoir d'achat. Mmh. C'est pas uniquement sur la capacité de réponse ou investir dans le matériel militaire. On est quand même dans quelque chose d'un peu différent.
Et la question, elle est de s'installer en fait. Et toute la difficulté, c'est comment on s'installe en fait à l'intérieur de cette nouvelle économie qu'on appellera économie de guerre pas loin. Disons ça comme ça. Mais la difficulté, c'est l'installation en fait.
C'est l'installation.
On sait pas quel est le bout.
Et l'incertitude. Il y a l'installation, c'est-à-dire effectivement comment on s'adapte à ces nouvelles contraintes, j'allais dire. C'est vrai que ça réfléchit à notre dépendance aussi à certains hydrocarbures. Donc comment on accélère la transition, comment on est plus sobre, comment on est plus efficace, comment on investit aussi différemment. Donc il y a beaucoup d'enjeux. Le problème, c'est que vous avez la contrainte du court terme, c'est-à-dire la fin du mois pour les gens, c'est-à-dire vraiment comment finir la fin du mois. Et puis vous avez le côté un peu fin du monde, c'est-à-dire le choc énergétique, les rapports géopolitiques, les difficultés d'approvisionnement avec la Chine. Et donc c'est comment l'économie française peut s'adapter en très peu de temps à des contraintes qui sont assez immédiates. Par contre, ça nécessite des investissements très lourds.
Il y a Pauline qui nous demande, par exemple, si cette augmentation des prix liée à des pénuries ne remet pas en question les encouragements à se convertir au bio, qui est moins productif et qui est parfois plus cher. Est-ce qu'on pourrait pas davantage aller vers une agriculture raisonnée? Ce qui est intéressant, c'est qu'on a vu dans les grandes surfaces notamment que c'est les prix bio, techniquement ou théoriquement, en tout cas, c'est pas toujours le cas, mais les moins chers, ce sont les premiers qui ont chuté. Est-ce que ça veut dire que là aussi, on est dans du très très moyen terme, même très très long terme? Mais est-ce que ça veut dire qu'on doit aussi repenser cela ou pas repenser jusque-là?
Alors, repenser jusque-là, c'est-à-dire qu'il faut, ce que je pense, c'est aussi une réponse que doit apporter le gouvernement, c'est-à-dire gérer à la fois l'urgence et le court terme et avoir une vision de long terme, c'est-à-dire considérer que ce choc n'est pas que temporaire et qu'il peut être permanent. On l'a vu déjà avec la crise sanitaire, la dépendance, notamment la Chine, sur certains médicaments, sur les matériels respiratoires, etc. Là, on le voit que c'est sur l'énergie et donc ça pose la question de la stratégie même, notamment nos dépendances vis-à-vis de l'extérieur, comment aussi on peut consommer différemment, ça a été évoqué. Donc il y a toute cette transformation, mais sauf qu'au lieu de la faire sur plusieurs décennies, il va falloir la faire sur quelques années.
Benoît est avec nous. Bonsoir Benoît.
Bonsoir.
On vous écoute Benoît. C'est vous le dernier je pense, mais on a du temps pour vous, allez-y.
Non, moi je m'interrogeais simplement sur un phénomène qui est celui de la création des émissions de monnaie des banques centrales, que ce soit en 2008 ou plus récemment pendant la guerre, la crise du Covid. Et je me demandais dans quelle mesure le fait d'émettre sur les marchés autant de monnaie d'un coup partout dans le monde ne génère pas en soi une inflation, parce que c'est créer une abondance de liquidités jamais connue auparavant. Est-ce que ça n'impacte pas? Est-ce que ça ne génère pas de l'inflation?
Merci pour votre question, Benoît. C'est vraiment pour vous, Mathieu Plane. Et qu'on génère des liquidités ou pas, d'ailleurs, c'est aussi dans la question de Benoît. Est-ce qu'on vit vraiment quelque chose qui est directement lié à la guerre en Ukraine, ou est-ce qu'il ne faut pas regarder bien plus en amont, en fait, qui nous emmène là où nous sommes?
Non, c'est une bonne question. C'est vrai que les politiques monétaires, c'est fameux. D'ailleurs, le crédit est très très peu cher. Les taux d'intérêt étaient très bas.
Ils sont en train de remonter.
Sont en train de remonter parce qu'il y a de l'inflation. Et d'ailleurs, la Banque centrale pense à les remonter. On ne sait pas à quelle vitesse et à quel horizon. En fait, cette politique monétaire, elle a surtout joué sur les prix des actifs, l'immobilier, les prix de l'immobilier, sur le prix des actions, assez peu en fait sur les biens-services. Là, il faut savoir que sur l'inflation qu'on a aujourd'hui, en réalité, près de 5%, il y en a plus de la moitié qui est liée à l'énergie. Donc si vous enlevez l'énergie, en réalité, l'inflation reste encore assez contenue. En fait, la politique monétaire n'a pas généré cette hyperinflation. C'est vraiment le choc lié à l'énergie. Il y a aussi, par exemple, aux États-Unis, les plans de relance qui ont été très très forts, notamment. La question aussi, c'est vrai que maintenant, les politiques monétaires permettent d'avoir quand même de l'activité, mais elles peuvent être amenés à augmenter un peu leur taux d'intérêt face à cette nouvelle inflation, ce qui serait pas non plus une très bonne nouvelle pour les dettes et le coût du financement des dettes, que ce soit la dette privée ou dette publique. Donc ça pose beaucoup, beaucoup de questions, à la fois sur les politiques budgétaires, mais aussi sur les politiques monétaires pour les mois à venir.
Mais comment on joue, par exemple, on se souvient à la fin de la pandémie, enfin qui n'est pas tout à fait terminée d'ailleurs, mais quand les frontières ont commencé à se rouvrir, on a bien vu à quoi ressemblaient les problèmes de matières premières, par exemple, les semi-conducteurs, etc. Donc est-ce qu'on se dit qu'il va y avoir voir là dans les mois qui viennent un certain nombre de crises qui vont pouvoir se résorber et ne restera effectivement que le... Alors évidemment c'est le noyau dur, mais le noyau dur c'est la crise énergétique, ouais. Et il y a un certain nombre de choses qui vont se résorber ou non en fait.
Malheureusement j'allais dire qu'on est un peu dans des crises multiples, alors avec effectivement un zoom sur la question énergétique, mais là aujourd'hui la question de la stratégie zéro Covid de la Chine pose beaucoup de questions sur les approvisionnements de composants industriels, sur l'industrie automobile et d'autres. Et puis, à ça s'ajoutent des questions dont on parlera après, mais ou pas dans cette émission, mais certainement dans quelques mois, qui sont les questions budgétaires de la dette. Parce que si les taux remontent, les coûts du financement augmentent. Et donc, est-ce qu'on peut vivre durablement avec des déficits élevés, une dette élevée? Donc, c'est beaucoup d'enjeux macroéconomiques aussi dans ce nouveau monde à gérer pour les mois et les années à venir.
Pascal Hébel, est-ce que cette installation, effectivement, dont parlait Mathieu Plane, dans une durée, en fait, parce qu'on sait bien qu'on ne peut pas voir le bout, on ne sait pas où est le plafond. Est-ce que c'est quelque chose que les gens ont intégré ou est-ce que vous avez le sentiment toujours que, au fond, les consommateurs sont dans la gestion de l'urgence là et de ce qui leur arrive à la fin, effectivement, du mois et pas à celle du monde?
Alors, on a quand même une fragmentation au niveau de la population. On a ceux qui, en effet, vivent avec cette pensée de la fin du mois et ceux qui pensent plus à la fin du monde. Donc, c'est ça qui fragmente l'opinion aujourd'hui. Mais en moyenne, les Français anticipent bien, en fait, tout ce qui va se passer à l'avenir. Je crois qu'ils ont bien compris que la question des prix qui, structurellement, vont être un peu plus haut, tout le monde le comprend, l'intègre dans ces changements. Il y a vraiment des changements de modèle de consommation qui se mettent en place. Il y a une résilience quand même qui... une interlocutrice en a parlé tout à l'heure, que ce soit la seconde main, que ce soit de manger plus végétal, ça permet en effet d'aller vers un nouveau monde où on s'adapte.
Est-ce que, ce sera la dernière question, Mathieu Plame, on anticipe bien ou on anticipe trop, ce qui créera aussi une forme de frilosité, une espèce de paralysie qui peut durer effectivement très longtemps dans l'économie?
Non, je crois qu'anticiper, c'est plutôt bien. C'est la question, c'est qu'est-ce qu'on anticipe? Alors, on a des enjeux qu'on connaît à peu près, on arrive à délimiter à peu près les choses. Mais on voit les instabilités aujourd'hui qui sont liées à des chocs quand même. On a vu un choc sanitaire inédit, là, une guerre... qu'on n'aurait pas pu anticiper il y a quelques mois, qui sont des chocs majeurs au niveau mondial. Et c'est vrai que, du coup, se pose la question de la réponse à ces chocs majeurs et comment on les anticipe, parce que, j'allais dire, jamais l'incertitude a été aussi élevée, en réalité.
Ouais, jamais les besoins d'anticipation n'ont été aussi élevés aussi. Voyons, on en parlait sur les pandémies à venir et puis sur les chocs de ce type-là. Également, on n'a pas fini d'en parler. Je vous remercie vraiment beaucoup, tous les deux, de votre présence et à vous tous pour vos nombreuses questions.